Comme la suggestion est venue de vous-même, nous nous sommes engagés dans l'étude des béatitudes, des proclamations de bonheur par lesquelles le Seigneur Jésus a inauguré le grand discours programme du début de son ministère, celui qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Dans une première étude, le mois dernier, nous avons étudié les béatitudes dans leur ensemble. Nous avons chercher quel était le sens même que ce morceau revêtait dans le ministère de Jésus, dans le contexte, et aussi quelle était la structure que le Seigneur lui avait donnée. Nous avons vu que Jésus définissait en quelque sorte la charte du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et que cette charte apparaissait comme une révolution à l'égard de toutes les valeurs du monde, à l'égard des manières de penser qui sont courantes autour de nous. Pour bien faire ressortir le contraste, je vous avais pris un peu par surprise, certains n'ont pas tout de suite saisi, je vous ai dit, je vous lis les béatitudes en français courant, cela voulait dire, selon les conceptions des Français couramment aujourd'hui, il s'agissait d'anti-béatitudes, si l'on considère celle du Seigneur. Je compte aujourd'hui, nous devons étudier chaque béatitude à son tour, je compte répéter cette forme que j'avais lue en début d'étude la fois dernière, mais après que j'aurai expliqué le sens de chacune, pour que vous saisissiez bien le contraste à nouveau. Aujourd'hui donc, nous devons nous pencher sur les 9 béatitudes dans l'ordre. En suivant, rien de très original dans cette manière de traiter notre sujet, et je vous propose de les relire. Alors cette fois, dans une autre version, je me suis dit, là aussi pour changer quand même un tout petit peu par rapport à votre habitude de lecture, et aussi pour que vous puissiez ainsi comparer, j'ai prévu de faire la lecture initiale dans la traduction d'Alphonse Maillot. Le pasteur Alphonse Maillot, de l'Église réformée de France, qui a été un prédicateur très très populaire, il y a relativement peu de temps, il y a 20-30 ans, a écrit, en fait il s'agit de ses sermons, a écrit un petit livre sur les béatitudes, qui compte parmi les meilleurs ouvrages venus de sa plume. Le pasteur Maillot, qui n'était pas un pasteur strictement évangélique à notre sens, était capable de choses qui ne nous plaisaient guère, mais également par moments de mise en valeur fulgurante du texte de la Bible. Il avait un don très remarquable pour faire passer les vérités du texte. Et en ce qui concerne le fascicule sur les béatitudes, je trouve que c'est une réussite et qu'il peut, sans être toujours d'accord, je pense qu'il peut nous être utile. Et alors, sa traduction est une traduction assez littérale, rien de révolutionnaire par rapport à la traduction. C'est le contenu qui est révolutionnaire par rapport à la pensée du monde. Et je vous lis donc ce qu'il propose. Heureux les pauvres de l'esprit, car pour eux est le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont dans les larmes, car eux seront consolés. Heureux les humbles, et puis il hésite un peu, la traduction, nous en reparlerons, mais où heureux les doux, car eux hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, car eux seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu. Heureux ceux qui œuvrent à la paix, eux seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés à cause de la justice, à eux est le royaume des cieux. Heureux êtes-vous quand on vous déshonorera, quand on vous pourchassera, et quand à tort on dira de vous tout le mal possible à cause de moi. Soyez heureux et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est bien de la même manière qu'on a pourchassé les prophètes, vos prédécesseurs. Avant que nous engagions dans le commentaire de ces différentes béatitudes, nous allons nous remettre à la grâce du Seigneur pour qu'il nous conduise. Est-ce que notre frère Christian Dougou voudrait nous conduire dans la prière ?
Seigneur, nous voulons te remercier pour la possibilité
Heureux les pauvres de l'esprit. Choisi de traduire Alphonse Maillot. Heureux, très littéralement, heureux les pauvres quant à l'esprit, par rapport à l'esprit. L'expression n'est pas très facile à traduire en français, car le royaume des cieux est pour eux ou à eux, vous pouvez traduire aussi de ces deux façons. La correspondance entre la promesse et le trait qui est relevé est assez simple à percevoir. Les pauvres, ce sont les laissés pour compte, ceux qui n'ont rien. Et c'est à eux qu'est promis le royaume des cieux. Nous essaierons pour chacune des béatitudes de repérer cette correspondance. Ici, elle apparaît assez aisément. Elle nous montre de quelle façon le Seigneur renverse les situations mondaines, de quelle façon son royaume, qui vient, mais qui est déjà présent par la puissance de l'Esprit, dans son royaume, donc, agit à contre-courant de ce que le train du monde nous a habitués à constater. Mais les termes, si de manière globale on peut assez facilement en situer le sens, les pauvres quant à l'esprit, d'esprit, de l'esprit, et le royaume des cieux, si ces deux termes ont un sens qui globalement nous est assez perceptible, sitôt que nous voulons savoir quel est le sens tout à fait exact, précis, alors ce n'est pas si facile de le déterminer. Et je crois que c'est le point principal qu'il nous faut considérer pour cette première béatitude, qui est une béatitude de titre qui englobe en quelque sorte l'ensemble du morceau. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il représente? Le royaume des cieux, c'est quand tu règnes. On pourrait aussi bien traduire le règne des cieux. Il n'y a pas deux mots différents dans la Bible pour règne ou pour royaume. Je crois qu'on peut assez simplement dire, le royaume des cieux, c'est l'ensemble des réalités dont jouissent les élus de Dieu quand Dieu règne. Selon la mesure de sa royauté exercée, quelle est la réalité que goûtent ceux qui sont à lui? C'est ça le royaume. C'est ça le royaume qui est promis ici aux pauvres quant à l'esprit. Alors ce royaume, il vient. Que ton royaume ou règne vienne, dit la prière que Jésus enseigne à ses disciples et qui se trouve dans un chapitre suivant. Ce royaume, il vient et il représente, au fond, ce royaume qui est promis aux pauvres, toute la félicité du salut. Tout ce dont nous jouirons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la gloire que le Seigneur fera briller pour nous, la douceur de sa présence, tout ça, c'est le royaume que nous attendons et qui est promis aux pauvres en esprit, quant à l'esprit de l'esprit. Mais, comme je l'ai dit il y a un instant, il est déjà présent, il est déjà inauguré par la première venue de Jésus-Christ et il est présent par l'esprit, et nous avons, c'est très commode, une définition par l'apôtre Paul du royaume de Dieu dans sa modalité présente, sous la forme qui nous est accordée dès maintenant. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 17. L'ensemble du chapitre discute d'un point qui peut avoir son importance pratique, discute de la question des différences que certains font entre les aliments, aliments purs, impurs, autorisés, interdits, et l'apôtre Paul s'efforce surtout de préserver l'union fraternelle entre ceux qui pensent comme ci et ceux qui pensent comme ça, à ce propos, entre les forts et les faibles. Ceux qui ont des scrupules, il les désigne comme les faibles, et ceux qui disent « mais non, on peut y aller, c'est la liberté chrétienne, on peut manger n'importe quoi ». Et dans le cours de cette discussion, au chapitre 14 donc et au verset 17, il dit « En effet, le règne ou royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire ». Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Là, nous avons trois termes qui définissent cette réalité dont jouit l'élu de Dieu quand Dieu règne. Et Dieu a commencé de régner en son cœur et dans la communauté qu'est l'Église par l'Esprit Saint. Et alors, le royaume de Dieu, la substance, c'est la justice, la paix, la joie. Voilà une définition qui nous permet de comprendre un peu mieux quel est le contenu de la grande proclamation. La justice, la joie, la paix, tous ces biens qu'on peut savourer dans la présence du Seigneur s'il règne, voilà ce qui est promis, ce qui est donné aux pauvres en esprit. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, pauvre en esprit, de l'esprit, quant à l'esprit? Là, c'est une formule qui a suscité beaucoup d'incompréhension, des méprises multiples. Et petite complication, quand on cherche à discerner son sens, c'est que dans les béatitudes selon l'évangile de Luc, au chapitre 6, alors elles sont moins nombreuses, et puis il y a des béatitudes et aussi des déclarations de malheur en sens inverse, dans la forme que les béatitudes prennent dans l'évangile de Luc, c'est simplement « heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux ». Il n'y a pas la clause en esprit, quant à l'esprit, etc. Et puis, Luc ajoute « et malheur à vous, riches ». Alors, est-ce qu'il faut comprendre les deux versions d'une manière qui les rapproche au maximum, en disant les deux évangélistes conduits par l'esprit, l'un et l'autre, mais nous ont donné en fait le même discours, et donc il faut essayer de comprendre « pauvre en esprit » à la lumière de la version brève de Luc 6, en insistant sur la pauvreté simplement? Ou est-ce qu'il faut dire, en fait, les deux évangélistes nous rapportent des discours assez semblables, mais quand même différents. Jésus répétait certainement souvent les mêmes paroles. Tout prédicateur, en particulier prédicateur itinérant, le fait abondamment. Et le sermon dans la plaine, comme on appelle parfois le sermon selon l'évangile de Luc, n'est pas forcément le même exactement que le sermon sur la montagne. Et Jésus peut avoir varié également le sens. Donc, il y a une petite complication à cet endroit, et il est difficile de trancher absolument. Alors, en gros, il me semble qu'il y a deux interprétations qu'on peut écarter, deux interprétations entre lesquelles on peut hésiter et qu'on peut essayer de prendre ensemble, s'il n'y a pas trop de tension entre les deux possibilités. Alors, celle qu'il faut écarter, c'est d'abord celle de beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible, alentour de nous, qui disent « les simples d'esprit ». Les simples d'esprit au sens de minus, de débiles qui ne sont incapables de bien juger des choses. Vous avez des tas de gens, hein. Je me rappelle une fois, il y a longtemps, ici même une lettre un peu insultante qui nous avait été envoyée au temps de la bonne nouvelle par téléphone. Vous savez, nous avions ce moyen d'évangélisation, des messages enregistrés sur magnétophone et... distribuer des papillons avec le numéro de téléphone, c'était la bonne nouvelle par téléphone, et il y a eu jusqu'à des milliers et des milliers d'appels par semaine. À un moment, ça a eu un très très grand succès. Alors nous recevions parfois des lettres, je me rappelle une lettre où on nous lançait « simple d'esprit », heureux les simples d'esprit ». Bien sûr, c'est absolument pas le sens dans ce contexte, même si nous devons accepter d'être considérés comme des minus, par les gens du monde, accepter d'être fous, insensés, aux yeux des sages, selon ce siècle, la première épître aux Corinthiens le dit assez carrément, c'est pas de cela qu'il s'agit ici du tout, ça c'est pas parfaitement clair. Il s'agit du mot « esprit » évoquant le domaine spirituel, et peut-être la puissance de l'esprit, mais non pas l'intelligence, c'est un autre mot. Donc, ce sens peut être écarté. Un autre sens est peut-être plus tentant, mais quand même, je crois qu'il faut l'écarter. Certains se sont dit, est-ce que ça voudrait dire ceux qui sont pauvres volontairement? Qui sont pauvres, qui n'ont rien dans leur compte en banque, qui ont renoncé à leur richesse, qui ont fait vœu de pauvreté, qui sont pauvres à cause d'une décision spirituelle qu'ils ont prise. Et ce sens pourrait être envisagé dans le contexte général de la prédication de Jésus. Il a bien dit au jeune homme riche, il te manque une chose, vends tout tes biens, distribue aux pauvres. Les Esséniens, les gens de la mer, des grottes de la mer morte, là, qui avaient leur établissement à côté, faisaient une sorte de vœu de pauvreté. Tous leurs biens, ils les apportaient à la communauté en devenant moines de cette communauté. Et donc, l'idée de renoncer volontairement à ses biens n'était pas du tout inconnue à l'époque. Seulement, il ne semble pas que Jésus l'aurait exprimé de manière si vague et si allusive par cette formule. ce n'aurait pas été quant à l'esprit ou par l'esprit, mais plutôt par décision volontaire, qui sont pauvres par leur propre choix, qu'il aurait pu dire. Mais cette façon d'exprimer la chose ne correspond pas vraiment. Et d'ailleurs, même un Qumran, ce n'est pas la formule qui est employée. Donc, je crois qu'il faut écarter aussi cette deuxième interprétation. Alors, il en reste deux autres, entre lesquels il est plus difficile de choisir. Ou bien, ceux qui sont pauvres, pauvres matériellement, pauvres à beaucoup d'égards, et qui l'assument spirituellement. En esprit, quant à l'esprit, serait ajouté par Matthieu, à la formule de Luc, pour écarter le malentendu. Alors, il suffit d'être pauvre pour être sauvé. Oui. Pour bien faire comprendre qu'il s'agit aussi de disposition du cœur par rapport à la pauvreté, donc Matthieu aurait ajouté la formule quant à l'esprit, de l'esprit pour l'esprit, mais il s'agirait toujours d'abord de pauvreté matérielle. Ceux qui sont démunis, ceux qui sont les laissés pour compte dans notre monde, ceux-là, s'ils ont la disposition de cœur qui accompagne, si ce ne sont pas des rebelles qui du coup se tournent contre Dieu avec aigreur et arrogance pour accuser Dieu, alors évidemment ceux-là ne risquent pas d'entrer dans le royaume tant qu'ils sont dans une telle attitude. Les pauvres, s'ils ont une attitude de cœur qui correspond à leur pauvreté, s'ils l'assument devant Dieu, se tournent vers lui, alors ils peuvent entendre la promesse. Le royaume des cieux est pour eux. Ça, c'est une interprétation qui me paraît possible. L'autre interprétation, c'est celle de la pauvreté spirituelle, qui sont pauvres en matière spirituelle. Là, ça ne semble pas être le sens chez Luc, mais ça pourrait être le sens dans le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, selon Matthieu. Ceux qui se reconnaissent dépourvus de tous les biens qui comptent en matière spirituelle devant Dieu. Qui savent qu'ils n'ont aucun titre, qui savent qu'ils doivent tout recevoir du Seigneur, qui, au plan donc de l'esprit, sont comme des mendiants. Certains ont proposé de traduire la formule « les mendiants de l'esprit », « heureux les mendiants de l'esprit ». Et cette image des mendiants, qui est forte, elle a aussi une attache historique intéressante à connaître. Ce sont les dernières paroles de Martin Luther. Luther, sur son lit de mort, a dit, comme ses dernières paroles, « Nous sommes des mendiants. » Rien que des mendiants. Et je crois que ça correspondait au sens de toute sa redécouverte de la grâce qui nous sauve. Nous ne pouvons rien apporter, tel que je suis, sans rien à moi. Je viens. Je suis pauvre spirituellement et c'est la condition pour recevoir le royaume, pour goûter la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint. Là aussi, cette interprétation convient très bien à l'ensemble du message biblique et au contexte dans l'Évangile selon Matthieu également. Alors peut-on unir quand même les deux interprétations qui sont l'une et l'autre plausibles, comme je viens de les expliquer? Il me semble que ce n'est pas tout à fait impossible. Dans ce sens que la pauvreté n'est pas seulement spirituelle, qu'il convient que nous reconnaissions devant Dieu. Finalement, si on dit c'est la pauvreté réelle, mais avec la disposition du cœur qui correspond, ou si on dit c'est la pauvreté spirituelle, finalement ça se rapproche. Oui. La disposition spirituelle, elle est là, forcément. Je pense qu'on peut interpréter cette parole dans ce sens. Heureux ceux qui reconnaissent qu'à tous égards, finalement ils n'ont rien. Même les richesses matérielles. Je crois que la Bible enseigne aux riches de reconnaître que finalement elles ne sont rien. Que ceux qui se croient riches, ils se font de grandes illusions. Insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Ceux qui croient par les richesses avoir la sécurité, finalement, leur richesse, qu'est-ce que c'est? Il suffit de si peu de choses. Il n'en reste plus rien. Un voleur efficace, Jésus évoque cette précarité des richesses mondaines. Les pauvres en esprit, il me semble que ce sont ceux qui reconnaissent qu'à tous égards, même matériellement, ils sont pauvres, qu'ils dépendent de la bonté de Dieu pour leur vie matérielle, pour leur vie intellectuelle, pour leur vie spirituelle, pour tout, c'est la dépendance radicale devant Dieu qui est en cause. C'est très intéressant de voir que le piège principal des richesses dans l'Écriture, c'est la suffisance devant Dieu. Et cela joue pour toutes les richesses, aussi intellectuelles et spirituelles. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Voilà. C'est le langage qui est reproché à l'église de Laodicée. Et probablement, c'est peut-être son budget, mais c'est plus probablement, c'est les dons spirituels, son rayonnement qui passe pour être vivante. Je suis riche spirituellement. Je suis quelqu'un, je suis riche. C'est cette suffisance qui bloque la grâce, qui fait tomber tout à côté, parce que la grâce, elle est pour les pauvres, pour ceux qui ont besoin de grâce. Et je pense que le piège principal des richesses, dans tous les domaines, c'est de nous faire croire que nous pouvons nous en tirer nous-mêmes, par nous-mêmes, que nous ne sommes pas dans le plus absolu besoin de Dieu pour toutes les démarches que nous faisons. Alors que c'est ça la vérité, nous sommes dans l'absolu besoin de Dieu pour chaque pas, pour chaque mot, pour chaque pensée, et bien sûr pour recevoir la grâce de la vie éternelle. Alors je suggère de comprendre fondamentalement comme ça la première béatitude et béatitude de titre. Et alors je vous rappelle la béatitude selon le monde, selon TF1, avais-je dit la dernière fois, mais aussi bien M6. Ou... Heureux ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, car le monde leur appartient. Oui, c'est bien ça, hein? C'est bien ça qu'on nous susurre tout au long. Heureux ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, car le monde leur appartient. C'est juste le contraire. Heureux ceux qui sont pauvres devant Dieu, qui acceptent leur pauvreté radicale devant Dieu. Car le royaume de Dieu, la justice, la paix, la joie sont pour eux. Voilà la première béatitude. Alors j'ai insisté davantage sur la première, puisque j'ai dit qu'elle a un rôle de titre, que je n'aurai le temps de le faire pour les suivantes, mais j'y viens aussi. La deuxième béatitude, donc, c'est heureux ceux qui pleurent, ceux qui mènent deuil, de manière qui peut être considérée comme littérale. Même Maillot, par exemple, dans son commentaire, dit bien, littéralement, mène deuil. Il s'agit des larmes dans cet usage. Je me suis dit d'ailleurs, en préparant pour ce matin, mais je n'ai pas fait l'enquête moi-même, qu'il serait très intéressant d'explorer le rôle des larmes et des pleurs dans l'Écriture. Parce que je pense qu'il y a un décalage entre le contexte biblique et le nôtre. Pour nous, les larmes sont quelque chose de très très privé, de très intime. Ce sont nos sentiments les plus personnels, et nous essayons d'être tout seuls quand nous avons envie de pleurer, hein, surtout tout seuls. Or, dans la culture du temps biblique, il n'en va pas du tout de même. Les pleurs ont un rôle social, et en particulier les pleurs lors des enterrements, au point qu'il y a des professionnels, les pleureuses, enfin quasi professionnelles disons, les pleureuses sont mandatées pour qu'on se lamente sur la perte de l'être qui vient de disparaître. Oui. Ça fait partie du scénario social. Alors c'est intéressant, ça mérite une certaine réflexion. En tout cas, ici, ceux qui pleurent sont ceux qui mènent deuil. Et la promesse, qui correspond tout à fait à ce trait que le Seigneur relève, c'est qu'ils seront consolés, réconfortés, encouragés. La formule même vient de la grande prophétie du chapitre 61 d'Ésaïe. Nous avons évoqué la chose la fois dernière. Cette même prophétie que Jésus a citée dans la synagogue en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, hein, les pauvres, ça correspondait à la première béatitude, et pour consoler ceux qui mènent deuil. les mêmes mots dans la traduction grecque, ce sont les mêmes mots qui sont ici repris. Cela fait partie de la mission du serviteur du Seigneur qui s'exprime en Ésaïe 61, prophétiquement. Ça fait partie de sa mission d'apporter le réconfort à ceux qui mènent deuil. Alors c'est une promesse qui sans doute peut valoir, nous avons le droit de nous l'approprier pour toutes les tristesses et pour tous les deuils qui nous frappent. Car le Seigneur veut nous en consoler. Sa bonté, sa tendresse, comme elle s'exprime dans tant de pages de l'Écriture, certainement implique ce désir de nous consoler. Mais dans le chapitre 61 d'Ésaïe, et dans d'autres passages aussi, je pense que le deuil qui est en cause est quand même un deuil sur un point, à propos d'un point plus précis. C'est un deuil pour Sion, c'est un deuil dans la perspective des châtiments qui sont tombés sur Sion à cause du péché renouvelé de génération en génération jusqu'à ce que la patience de Dieu vienne à son terme. C'est pour les endeuillés de Sion qui ont vu la ville ravagée et le temple détruit à cause de toutes les souillures et qui ont sali Jérusalem. C'est pour ceux-là que le réconfort est promis. Et je crois que de manière assez générale, le deuil que le Seigneur apprécie et qu'il attend, c'est un deuil qui est relatif au péché. Ceux qui pleurent parce qu'ils ont péché, ou que leur communauté a péché, et se trouvent châtiés de manière correspondante, parce qu'il y a un sens de la solidarité. Ce n'est pas seulement notre péché juste individuel, nous faisons partie d'une communauté et nous sommes co-responsables. Ceux qui mènent deuil, ce sont ceux qui ont conscience de la gravité du péché, qui en sont sincèrement affligés et qui se tournent vers Dieu dans cette tristesse d'avoir offensé le Seigneur, le Dieu d'amour. Les mêmes mots que nous avons ici sont repris dans un passage très vigoureux de l'épître de Jacques. Et vous savez, Jacques était sans doute le frère, selon la chair, du Seigneur, un enfant de Marie, la mère de Jésus. Et on a remarqué que dans son style, plusieurs fois, il y a comme des échos du sermon sur la montagne. Et Jacques dit au chapitre 4, c'est assez frappant, je lis à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez votre cœur, âme partagée. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je crois que c'est de ce deuil-là d'abord qu'il est question dans la deuxième béatitude. Et alors je vous avoue que la question se pose pour moi. Est-ce que j'éprouve vraiment cette tristesse par rapport à la communauté dont je fais partie, par rapport à la situation de l'Église, non pas tant notre communauté, je suis heureux de ce que le Seigneur nous donne, mais par rapport à l'Église de Jésus-Christ dans le monde, dans notre pays en France, par rapport à la France, est-ce que je mène deuil comme les endeuillés de Sion menaient deuil pour Jérusalem, solidaire de leur peuple rebelle et puni pour ses rébellions? Je vous avoue que je ne sens pas en moi, me semble-t-il, autant qu'il le faudrait. Et ce texte m'aiguillonne à ce propos. Je rencontre parfois certaines personnes qui me semblent très sensibles à la détresse spirituelle de notre pays et au fait que toute la collectivité dont nous sommes est éloignée de Dieu, qu'elle tâtonne dans les ténèbres morales, spirituelles. Et au fond, je me dis, ils sont peut-être beaucoup plus saisis par le deuil que Dieu attend à cet égard. Le signe du deuil, entre autres, c'est le jeûne. Moi, je ne suis pas très porté par habitude de piété à la pratique du jeûne. Je pense qu'il y a des idées très fausses qui circulent sur le jeûne, et que c'est une superstition très dangereuse que d'en faire comme un moyen de pression sur Dieu, comme un truc pour intensifier l'énergie spirituelle. C'est pas ça du tout dans la Bible. Mais le jeûne est l'expression du deuil, du sentiment de deuil. Comme un prédicateur qui parlait du jeûne dans un culte de notre faculté le disait il y a quelques semaines. Et oui, c'est que on a l'appétit coupé, hein. On est tellement triste, tellement saisi de voir à quel point ces gens autour de nous se perdent que ça coupe l'appétit. Alors, je glisse cette pensée, je ne vous propose pas un programme particulier, mais je vous dis que moi je me sens remis un peu en cause par ce que j'entends et qui me semble correspondre à la deuxième béatitude. Le fait qu'il est conforme à Dieu, que nous ayons un sentiment de tristesse intense devant le péché, qui est celui de nos communautés. Voilà pour la deuxième béatitude. La troisième, alors, c'est l'héritage des humbles, ou bien doux, ou bien débonnaires, heureux. Et on traduit par un de ces termes, car ils hériteront de la terre. Le point principal, sans doute, c'est la question de la traduction du terme sur lequel on hésite, et je vais donner quelques petits commentaires à ce propos. C'est un terme qui est utilisé dans la traduction de l'Ancien Testament, la traduction donc qui était la Bible habituelle des premières communautés chrétiennes, la traduction faite par les Juifs avant l'ère chrétienne en grec, Septante. Ce mot est utilisé au psaume 37 avec exactement cette formule. Les doux, humbles, débonnaires, hériteront la terre. C'est un mot qui traduit en grec, donc, avec des nuances donc, d'humilité et de douceur, un terme hébraïque qui est proche de pauvre, mais c'est un terme quand même distinct de celui de pauvre. C'est l'humilité, et il y a une très jolie illustration du sens de ce terme. Il nous est dit que Moïse était le plus humble, doux, c'est ce mot, de tous les hommes de la terre. Et vous vous rappelez à quel propos cela est dit, au chapitre 12 du livre des Nombres. Moïse était le chef que Dieu avait donné au peuple, et sa sœur même, et Aaron ont commencé à murmurer, mais il n'y a pas que Moïse. Contestation de l'autorité de Moïse et du choix de Dieu qui lui avait donné cette mission. Alors, il parle, il murmure. Et il nous a dit, Moïse était le plus doux, humble. On voit très bien, au lieu de réagir, au lieu de flanquer une claque à sa grande sœur, Moïse supporte patiemment. Moïse ne réagit pas, c'est Dieu qui va prendre fait et cause pour son serviteur, qui va réagir fort. Mais Moïse se montre doux, humble, devant ses critiques. Alors c'est surtout devant les critiques, qu'elles soient justifiées ou non justifiées, qu'il est difficile de montrer l'humilité. Je me rappelle une critique assez venimeuse, mais finalement quand même, qui touchait juste d'un auteur non chrétien qui se moquait d'un grand prédicateur chrétien, je ne vais pas dire son nom, mais qui ne cessait dans ses prédications de souligner qu'il était le dernier des pécheurs, qu'il n'avait rien, etc. Et puis, dès qu'il y avait une accusation qui portait sur lui, dès qu'on disait « Oh, il est un petit peu trop saint », « Ah !» Alors là, il se défendait, « Bec et on, jamais David !» Il n'y a pas un décalage. Quand on est critiqué, se révèle si on est vraiment humble ou pas. Alors je sais bien qu'il n'a pas laissé courir non plus des choses injustes, sans essayer de redresser la vérité, mais l'attitude fondamentale, c'est cette humilité qui ne riposte pas. Et bien sûr, après Moïse, c'est celui qui est plus grand que Moïse, notre Seigneur Jésus lui-même. Il a dit au chapitre 11 du même évangile de Matthieu, « Je suis doux et humble de cœur. » Et le mot « doux », c'est le même qu'ici. « Je suis doux et humble de cœur. » Jésus aussi, qui n'a pas répliqué alors qu'on l'accusait. Jésus qui s'est montré si patient, sans que ce soit de la mollesse, bien sûr, sans qu'il se laisse simplement piétiner. Je crois que là, nous avons l'illustration de ce que signifie le mot. Heureux ceux qui sont doux, humbles, débonnaires, car ils hériteront la terre. Pourquoi ce verbe hériter ? Il est très fréquent dans la Bible, en fait. Alors, il est vrai, d'une part, que le sens du verbe dans la Bible, en hébreu pour l'Ancien Testament, et puis cet usage se transporte dans le Nouveau, est plus large, un peu plus large. Et dans certains cas, on peut traduire « conquérir »,« entrer en possession de ». Vous connaissez d'ailleurs dans certaines versions la formule « entrer en possession de ». C'est le mot utilisé pour le pays de Canaan et le peuple d'Israël. Mais quand même, c'est un mot qui évoque la notion d'héritage, aussi, selon notre sens habituel du terme. Et quel est mon commentaire à ce propos ? Il me semble que la place de l'héritage, hérité du salut, dans le Nouveau Testament et la Bible tout entière, est très significative. Hériter, c'est avoir quelque chose sans l'avoir mérité. Hériter, ce n'est pas mériter. Au contraire. Là, on n'a pas travaillé, c'est l'héritage. Hériter, c'est recevoir sans l'avoir mérité, mais c'est recevoir en vertu d'un lien vital, d'une appartenance familiale. Et je pense que ça joue pour l'héritage qui nous est promis. Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu que nous héritons de tous ces biens du royaume que représente encore ici la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore là, tout tremblant dans la crainte du châtiment devant Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Oui, oui. Vous voyez la logique, là je cite Romains 8, hein. La logique est transparente. L'héritage joue un tel rôle dans le vocabulaire biblique parce qu'il correspond très très bien à ce qui est vrai de notre salut, de la terre qui nous est promise. Alors la terre d'Israël était une image de tous ces biens du royaume de Dieu, et puis il faut bien dire que c'est la nouvelle terre qui fait partie de ce royaume de Dieu. Tout est à vous, vous êtes à Christ. Tout est à vous, le monde aussi, la terre. Voilà la promesse. Ça c'est troisième béatitude, et j'ai omis de rappeler les contre-béatitudes du monde à propos de la précédente et de celle-ci. Le monde, lui, dit au contraire, « Heureux ceux qui ne s'en font pas à propos du péché, car ils peuvent bien s'amuser. » Et puis il dit, « Heureux les violents, les agressifs, car ils obtiennent ce qu'ils veulent. » C'est bien comme ça que pense le monde autour de nous. Mais le Seigneur Jésus nous dit, « Heureux ceux qui sont humbles, doux de cœur, comme moi. » Comme dit Jésus, c'est Jésus qui parle. Car ils hériteront la terre. La béatitude suivante, nous progressons selon le temps, c'est celle du rassasiement des affamés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Là encore, la correspondance est tout à fait claire entre ce qui est promis et le trait qui est mis en valeur, c'est le désir même qui sera comblé. Faim et soif représentent un désir intense qui qui n'est pas juste un petit caprice d'un moment. Mais le plus difficile, c'est de déterminer dans l'interprétation de ce verset ce que le mot justice recouvre exactement. Et là, il y a vraiment trois grandes façons de comprendre ce faim et soif de justice dans ce passage. Il y a un certain nombre de gens qui comprennent la justice comme l'ordre juste des choses dans le monde. La répartition conforme au droit des richesses, le fait qu'il n'y ait pas de gens opprimés. Ceux qui ont faim et soif de justice, ce sont ceux qui rêvent d'un monde où les inégalités seront enfin réduites, où les juges ne jugeront pas de manière corrompue, où les choses seront en ordre, où tous seront libres. C'est un monde juste, voyez, qu'ils ont en vue lorsqu'ils lisent faim et soif de justice. Et ils pensent donc que ceux qui seront rassasiés, ce sont ceux qui luttent pour la justice, l'établissement de la justice dans la société. Deuxième interprétation, c'est ceux qui disent la justice, c'est être en règle avec Dieu. La justice, c'est satisfaire aux exigences du Dieu saint. Ceux qui ont faim et soif de justice, ce sont ceux qui se rendent compte, qui sont pauvres, radicalement, qui mènent deuil sur leurs péchés, et qui désirent la justice de Dieu, qu'elle les revête. Et couvert de ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Cette justice cadeau qui nous est donnée lorsque nous reconnaissons notre besoin radical. Ça, c'est la deuxième grande interprétation. Puis la troisième interprétation, c'est la justice en cause, c'est la justice que chacun doit pratiquer. Ceux qui ont faim et soif de justice, ce sont ceux qui veulent faire ce qui est juste eux-mêmes dans leur vie, qui veulent se conformer au commandement, à la volonté de Dieu, et qui vraiment ont faim et soif de plaire à Dieu dans leur manière de vivre. Vous voyez les trois possibilités. Alors en un sens, les trois peuvent s'accorder avec le message biblique dans son ensemble. Je pense qu'il est biblique de chercher à œuvrer pour plus de justice dans le monde autour de nous, sans nous faire trop d'illusions, et en ayant faim et soif du moment où nous serons dans la nouvelle terre, où la justice habitera. Là, c'est vraiment la justice dans tout son déploiement. Il est vrai que nous avons aussi à désirer ardemment la justice gratuite qui nous couvre, la justice du Christ qui nous est donnée, et puis aussi à pratiquer la justice. Alors, qu'est-ce qui est en cause ici, plus spécialement? Il me semble que les autres références à la justice dans le sermon sur la montagne nous orientent vers la troisième option. Ça ne veut pas dire que les deux autres choses ne sont pas des vérités spirituelles, mais ici, ce qui est en cause, plus spécialement, je pense que c'est la troisième option, car un peu plus loin, Jésus, qui parle surtout de la pratique de ses disciples, dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et puis encore, ça c'est donc, c'est plus clair, au début du chapitre 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu d'eux, etc. » Donc là, on voit bien que le mot justice représente plutôt la pratique par les disciples du Seigneur. Et donc je pense que l'option qu'il faut privilégier, c'est celle-ci. Heureux ceux qui ont une telle horreur du péché qui est encore attaché à eux, qu'ils ont faim et soif de faire la volonté de Dieu, selon que Dieu l'a défini lui-même. Et il y a une promesse. Ils seront rassasiés. Nous allons vers une parfaite délivrance du péché. Nous plairons au Seigneur à 100%. Nous n'aurons plus honte de rien. Nous aurons juste les sentiments qui sont ceux de Jésus. Cela, c'est l'état qui nous est promis. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà la promesse. Elle a un rôle d'aimant pour nous attirer vers cette plénitude. Et nous devons nous réjouir à cette pensée que nous pratiquerons parfaitement la justice. Et puis, en attendant, il y a la promesse que cette faim et cette soif, le Seigneur commencera déjà de les rassasier ou étancher dès ce temps présent. Si nous avons faim et soif de pratiquer la justice de Dieu, il interviendra dans notre vie. Il nous donnera la force de surmonter le péché. Il nous donnera de lui plaire. Même si c'est imparfait, il couvrira de sa grâce les imperfections de notre conduite. Mais il promet, cette béatitude nous l'assure, il promet de nous faire progresser sur le chemin de sa justice. Voilà comment je vous propose de comprendre cette béatitude. La béatitude suivante, elle est aussi extrêmement simple à comprendre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, c'est un terme français, donc, qui ne vient pas de l'hébreu ou du grec, qui ne vient pas des langues bibliques, mais il est quand même intéressant de savoir son étymologie. Ça veut dire qu'il y a un cœur, corde, cordial, ça veut dire du cœur, hein. Donc corde, ça vient de cœur, pour les misérables, pour ceux qui sont dans la misère. Être miséricordieux, c'est être touché par la misère de ceux qui sont dans la misère, et d'agir alors de manière correspondante. Alors là, la difficulté de compréhension peut-être de cette béatitude, c'est le rapport. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça correspond à ce que Jésus a dit à plusieurs autres reprises. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si vous ne leur remettez pas les dettes à votre égard, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ne vous remettra pas vos dettes. Et Jésus l'a développé dans une parabole qui se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, nous montrant comment ce serviteur auquel le roi avait remis une dette énorme, énorme, des milliards et des milliards, mais qui ensuite refusait de tenir quitte son compagnon qui lui devait une petite somme et l'étranglait en disant « Je vais en prison si tu ne me paies pas », comment cet homme a été sévèrement jugé par ce roi, avec un avertissement. Si vous ne remettez pas leurs dettes aux autres, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous remette vos dettes. C'est un message qui est très présent dans l'enseignement de Jésus. Alors il nous gêne un peu. Il nous gêne d'abord parce que il nous taraude. Hein. C'est comme une menace qui plane sur nous quand nous avons du mal à pardonner aux autres. Et puis nous nous disons, mais enfin c'est pas d'accord avec la grâce alors. S'il faut que nous pardonnions pour être pardonnés, donc finalement, c'est notre œuvre de pardon qui nous vaut le pardon, donc finalement, c'est un mérite que nous acquérons, et c'est pas l'évangile, alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ça nous sommes aussi gênés à cause de ce point précis. Alors là, la compréhension que je vous suggère au moins, c'est que Jésus va dans l'autre ordre, comme la parabole le montre très clairement. La parabole de Matthieu 18, du serviteur impitoyable, comme on l'appelle habituellement, elle commence par la remise de dette par le roi. Elle commence par cette remise de dette, et c'est quand le serviteur à qui cette dette a été remise se comporte, lui, en homme dur à l'égard de son compagnon, que le roi, agissant comme roi, intervient. Donc il est clair que le roi n'attend pas pour remettre la dette que le serviteur le fasse. Le roi n'a même pas eu un petit calcul pédagogique en disant « Tiens, je vais attendre, je vais dire, je reverrai ça une autre fois, mais et puis voir ce qu'il allait faire avec son compagnon. » Non, le roi avait remis la dette. Donc, cela commence par la grâce de Dieu, puisque le roi représente Dieu dans la parabole. Seulement, le Seigneur Jésus nous avertit que quelqu'un qui a vraiment reçu la grâce de Dieu, à qui Dieu a fait miséricorde, en particulier pour ses péchés, ne peut pas se comporter juste à l'opposé de Dieu avec ses compagnons. S'il le fait, c'est qu'en fait il est tout à fait à côté de la plaque, qu'il ne s'est pas vraiment confié en Dieu, qu'il n'a pas vraiment noué une alliance avec Dieu. Donc, il ne peut pas considérer que ses péchés sont pardonnés. C'est le démenti concret de l'authenticité de la démarche spirituelle que le refus de pardonner à son frère ou à sa sœur. Si on refuse de pardonner à son frère ou à sa sœur, on montre qu'on n'a pas vraiment reçu le pardon de Dieu, qu'on ne s'est pas vraiment mis dans ce rapport à Dieu. Parce que malgré notre faiblesse, si nous avons reçu la grâce de Dieu pour ce qu'elle est, nous ne pouvons plus agir autrement. Il me semble que c'est cela la signification de cet accent, mais accent marqué, qui a quand même une valeur d'avertissement pour chacun. Parce que si nous voyons que nous glissons vers cette dureté de cœur et ce refus de pardonner, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ressaisissons-nous. Voilà ce que je crois le sens, ce qui est le sens de cette béatitude et de l'enseignement de Jésus dans beaucoup d'autres passages. Heureux ceux qui ont le cœur pur, littéralement les purs de cœur, très littéralement, car ils verront Dieu. Alors, de nouveau, l'interprétation n'est pas tout à fait assurée. Disons qu'il y a des débats à son propos, et puis il y a des gens qui dérapent clairement. On a beaucoup trop interprété la formule « le cœur pur » simplement de ceux qui s'abstiennent de tout désir sexuel. Ça a été, je crois, assez clairement l'interprétation dominante dans le cours de l'histoire de l'Église. Le catholicisme a été influencé très très tôt, dès les premiers siècles de l'Église, par des idéaux qui ne venaient pas de la Bible, des idéaux d'ascèse, de coupure avec tout le monde du corps et des sens, et avec une exaltation du célibat, vous le savez. Et du coup, on a compris la pureté de cœur comme la répression de tout ce qui est relatif au désir sexuel. Alors, ce n'est certainement pas le sens ici. Ça ne veut pas dire que les désirs sexuels ne sont pas aussi à maîtriser dans la pensée biblique. Mais le cœur, d'abord, c'est l'organe de la pensée, hein, l'organe de la pensée et de la volonté, bien avant d'être celui des sentiments. Et la pureté de cœur, je crois qu'elle a été très bien définie. C'est le penseur Kierkegaard qui a une fois prêché un sermon, enfin disons qui a écrit le sermon sur ce sujet. La pureté du cœur, c'est de vouloir l'un. Une seule chose est nécessaire. Vouloir cette chose, c'est ça avoir le cœur pur. L'impureté, c'est le mélange. Le cœur impur, c'est le cœur qui sert à un certain désir de Dieu, mais aussi à d'autres désirs. Et tout ça se mélange. Alors, les désirs sexuels aussi, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, peuvent aussi entrer dans ce mélange. Mais aussi le désir de l'argent, de la gloire. C'est ça l'impureté du cœur, cette mixture de motivation qui empêche de vouloir l'un. Je fais une chose, disait Paul, je cours vers le but qui est de connaître Dieu, de connaître Christ. La pureté du cœur, donc, c'est cette concentration au fond de notre être qui nous porte vers Dieu et sa volonté. Et la promesse alors, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Là aussi, il y a plusieurs interprétations possibles, sans doute deux principales. Et je crois qu'on peut les associer. Voir Dieu dans la Bible, comme voir le roi, c'est être admis en sa présence. C'est être l'un de ses intimes. Dans le livre d'Esther, par exemple, il y a cette expression « ceux qui voyaient le roi ». Eh oui, on ne voit pas le roi comme ça. Hein. Il faut être introduit, faire partie de ses familiers. Voilà, c'est ça, avoir le privilège de voir le roi. Voir Dieu, c'est avoir le privilège d'accéder jusqu'à lui, de pouvoir parler avec lui, être en sa présence immédiate. Et puis l'autre sens biblique, c'est voir Dieu agir. C'est voir Dieu se manifester dans l'histoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de plus grandes choses, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nathanaël, qui est tout saisi, parce qu'il se rend compte que Jésus avait lu dans son cœur, et savait exactement ce qu'il en était de lui. Si tu crois, tu verras de plus grandes choses, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est voir Dieu à l'œuvre. Quand le royaume sera instauré dans toute sa plénitude, nous verrons Dieu, nos yeux contempleront le roi dans sa beauté, sa gloire éclatera, son œuvre sera parfaitement manifestée. Mais en attendant, il nous est promis que si nous concentrons notre vouloir sur lui et sa cause, alors nous le verrons à l'œuvre. Nous avons le privilège d'accéder jusqu'à lui, d'être de ses familiers et de le voir agir. C'est à son heure, nous n'avons pas quoi attendre, mais la promesse est là. Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu agir. Voilà ce que je vous propose de comprendre avec cette béatitude. Heureux ceux qui sont des artisans de paix, ceux qui procurent la paix, dit aussi une autre traduction, ceux qui œuvrent à la paix, a traduit Maillot. Il s'agit non pas seulement des pacifiques, mais des pacificateurs. Alors bien sûr, pour être pacificateur, c'est-à-dire pour faire que la paix revienne là où elle a été troublée, il faut d'abord être pacifique soi-même. Je crois que ça mérite d'être dit. Évidemment, ceux qui sont pleins d'agressivité, qui provoquent les autres, parfois de petites piques simplement, qui les touchent au point sensible, sachant bien qu'ils vont réagir, ceux-là, ils ne sont pas des artisans de paix. Ils ne sont même pas pacifiques eux-mêmes. Mais quand on est pacifique, le fruit de paix est porté dans la vie. Il y a comme un rayonnement pacificateur. Je pense que nous avons tous rencontré des personnalités bien équilibrées, sages, qui s'efforcent de ne pas agresser les autres et qui donc répandent un climat de paix autour d'elles. Le fait d'être pacifique a déjà un rôle pacificateur. Mais il y a sans doute aussi des démarches plus actives de pacification, dans certains cas de conciliation. Et Jésus dit « Heureux ceux qui remplissent un tel ministère ». Alors il y a des risques, c'est délicat, et dans certains cas il est même utile d'avoir une formation spéciale. Nous sommes tous appelés, mais il y a en même temps des formations spéciales. Il y a des risques. Moïse en a appris quelque chose quand il était jeune et plein de zèle. Il a voulu réconcilier deux Israélites qui se battaient, et mal lui en a pris. C'est parfois risqué, et il faut savoir s'y prendre. Il y a des formations à la médiation, à la conciliation, qui peuvent être très utiles. Parmi les choses qu'on y apprend, je crois, mais moi je n'ai pas suivi une telle formation, il y a l'importance d'un cadre, bien clair pour les deux parties antagonistes qu'on essaye de réconcilier, que nul ne se sente menacé. L'importance de l'écoute, d'abord, prendre le temps d'écouter, éviter un langage blessant, reformuler, souvent celui qui concilie, il reformule dans un langage non blessant les griefs des uns et des autres. Et on s'aperçoit que ça passe beaucoup mieux, qu'à ce moment-là, ça pourra être entendu, perçu, alors qu'autrement, ça ne l'était pas. Trouver des pas modestes qui permettront d'améliorer les choses. Pas exiger tout de suite, parce que ça ne marche pas. Mais pas mettre la barre trop haut, pour un premier temps. Voilà des choses que les conciliateurs apprennent à faire. Heureux ceux qui jouent un tel rôle, et aussi dans les églises, car ils seront appelés fils de Dieu. Tel père, tel fils. Si Jésus emploie cette formule, je crois qu'il veut nous suggérer que c'est être à l'image de Dieu que d'œuvrer ainsi pour la conciliation et réconciliation, que de faire œuvre de paix. C'est Dieu qui est le Dieu de paix, qui a instauré la paix parmi nous et par son Fils. C'est être des fils de Dieu à l'image du Fils de Dieu, qui est le réconciliateur, qui nous a réconciliés. Et dernière série, dans la série des huit, je vous ai montré la structure la fois dernière, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Le rapport au monde n'est pas seulement un rapport d'opposition quant aux valeurs professées, quant aux croyances fondamentales. Il implique aussi un conflit brutal. Le monde en veut à ceux qui ne lui sont pas conformes. Le monde veut expulser comme un corps étranger ceux qui ont un autre esprit que le sien. Cela s'est vérifié pour Jésus lui-même. Et Jésus nous dit que comme le monde a fait pour lui, ainsi ses disciples doivent s'attendre à être traités. Alors là, la prédiction se vérifie à des degrés divers. Je pense que ce serait un piège que de chercher la persécution systématiquement pour que la chose s'accomplisse et se dire je ne suis pas persécuté, donc je suis infidèle ou alors la parole du Seigneur ne s'applique pas. Je crois que la persécution connaît des degrés très divers, que dans le Nouveau Testament lui-même, on voit que c'est pas du tout le même degré à tel ou tel moment, que même Jésus a connu des périodes où il était très populaire parmi les foules, la foule, et qu'il a été très bien reçu. Donc, il ne faut pas en faire une règle mécanique, rigide, et il ne faut pas chercher surtout à se sentir fidèle en provoquant les gens alentours. C'est un piège que parfois, je crois que j'ai discerné des gens qui se sentent alors bien s'ils sont critiqués par tout le monde. C'est pas de cette façon qu'il faut prendre le heureux les persécutés, parce que c'est à cause de la justice. Et Jésus reprend dans la phrase qui suit, qui applique cette même dernière béatitude à chacun de nous, heureux êtes-vous quand on vous persécutera. Jésus dit à cause de moi, à cause de la justice, c'est à cause de Jésus. C'est cette justice de Dieu que son esprit nous rend capable de pratiquer déjà sur le chemin de la sanctification et qui est parfaitement représentée en notre Seigneur Jésus. Il s'agit d'être persécuté à cause de Jésus, à cause de la justice qu'il nous donne, et non pas parce que nous nous rendons odieux à nos voisins, non pas parce que nous sommes simplement maladroits, il y a une sagesse aussi à connaître à cet égard, mais il y a la promesse que le royaume de Dieu, avec tous ces biens que nous avons évoqués, il est pour ceux que le monde rejette, refuse, avec des degrés divers de violence. Cela peut être approprié par chacun des disciples, comme la neuvième ou la béatitude supplémentaire, heureux êtes-vous, nous le dit. Et là, je relève, juste pour achever, outre cette « à cause de moi » qui est tout à fait centrale, l'accent sur la diffamation. Jésus évoque la persécution, mais il souligne tout spécialement les calomnies. On dira toutes sortes de mal possibles de vous, à cause de moi. Et cela, je pense que nous le connaissons quand même dans notre situation française d'aujourd'hui, qui est favorisée, nous le connaissons quand même un peu. Il suffit de voir comment toute protestation au nom des commandements de Dieu à propos du Pax, de l'homosexualité, de l'avortement, etc., est reçue autour de nous, et la manière dont on nous traite, pour nous rendre compte que oui, on dit des choses fausses sur les disciples de Jésus. À cause de lui. Alors, c'est à cause de la justice de Jésus. Donc, l'insistance sur cette diffamation est, si Jésus y insiste, c'est parce que il est important pour chacun de nous d'être reconnu. Reconnaître ce besoin en nous, c'est une première étape vers la libération, que ça ne soit pas un esclavage. Nous avons besoin d'être salué. C'est un besoin humain fondamental. On peut dire que notre image dans le regard d'autrui, elle compte énormément pour nous, que sans elle, nous sommes déstabilisés sérieusement. C'est pour ça que la diffamation, la caricature vilaine, nous font mal. Alors il s'agit de savoir pour nous que cela est pour un temps et que le Seigneur est de notre côté. Même si nous ne sommes pas aux yeux des autres très reluisant, il nous voit. Il nous voit autrement, lui. Et ce qui compte, c'est ce que nous sommes à ses yeux. Et cela sera manifesté. Et puis l'autre note que je relève, c'est l'association à tout le cortège des témoins fidèles. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes, vos prédécesseurs, ceux qui sont venus avant vous. Nous ne sommes pas les premiers. Nous serons peut-être les derniers si le Seigneur Jésus revient, mais peut-être ne serons-nous pas non plus les derniers. En tout cas, nous ne sommes pas les premiers. En tout cas, il y a des générations et des générations de témoins fidèles qui ont connu les mêmes luttes que nous, mais qui avaient reçu le même esprit que nous. Et nous sommes aussi, je pense, conforté, encouragé, stimulé de savoir que nous sommes inclus dans cette immense procession qui part déjà de l'Ancien Testament, les prophètes avant vous, et qui continue à travers tous les temps de l'Église. Voilà quelques mots donc sur ces béatitudes. On pourrait en dire certainement beaucoup plus, mais là, mon temps est maintenant juste écoulé. Je vous remercie pour votre patience. S'il y a des questions, pour ceux qui veulent encore rester un petit peu, c'est possible. Oui, oui, Madame Françoise. Oui, oui. Alors la question porte sur les deuils que nous devons faire dans notre vie humaine pratiquement à toute étape. Les psychologues en particulier en parlent, un travail de deuil. Il faut faire le deuil de tel espoir qu'on avait nourri longtemps, de telle ambition qu'on avait eue, de telle amitié à laquelle tout à coup les événements mettent fin. Et je pense en effet qu'on a tout à fait le droit d'étendre à ces deuils si divers la volonté de nous réconforter qui est celle du Seigneur. Je pense que l'accent doit être mis de manière majeure sur le deuil par rapport au péché, comme je l'ai souligné, mais ce n'est pas une restriction. Finalement, d'ailleurs, toutes les expériences négatives que nous faisons sont liées au détraquement du monde, qui est finalement lié au péché. Donc, je crois que nous pouvons étendre effectivement la référence du mot deuil, en l'occurrence. Oui, M. Kenpak. Alors la question porte sur la nécessité de la demande de pardon pour qu'il y ait pardon. Alors c'est un assez grand sujet qui est débattu et je ne voudrais pas m'engager donc maintenant, c'est l'heure, hein, dans l'exposé de ce sujet. Nous pourrions peut-être y revenir. Il est exposé à mes yeux très très bien par le livre de M. Jacques Buchold, Le pardon et l'oubli. Je crois que bibliquement, le mot pardon, vise l'événement réconciliateur qui forcément est des deux côtés, et donc il ne s'agit pas seulement de la disposition à pardonner. Nous sommes appelés à avoir la disposition à pardonner, mais ce n'est pas encore le pardon. Et que l'événement du pardon a lieu quand l'autre demande pardon aussi. Que c'est ça que la Bible, comme entre Dieu et les hommes, c'est comme ça que ça se passe. Que l'événement pardon dans sa plénitude se réalise. Mais il faut souligner une chose immédiatement, c'est que cette demande de pardon, ce n'est pas une manière d'humilier l'autre, de lui faire payer quand même, etc. Alors ça, c'est tout à fait négatif, et que même, très souvent, la demande de pardon peut être considérée comme dite entre les lignes, chuchotée de telle sorte qu'on la comprend. Il faut tenir compte de la difficulté d'expression et dire « j'attends qu'il me donne mon pardon », etc. Souvent, c'est de mauvais aloi. C'est pas très spirituel. Je pense qu'il faut qu'il y ait demande de pardon pour que l'événement du pardon ait lieu, mais que cette demande peut avoir des formes assez subtiles et ténues, et que nous devons être prêts à l'accepter si nous sommes les offensés. Alors, nous n'avons pas le droit d'exiger la forme qui nous plairait pour cette demande. Ça, c'est, me semble-t-il, très clair. Si nous sommes disposés à pardonner, parce que Dieu nous a pardonné en Christ, que nous nous rendons compte que nous avions des dettes de milliards et de milliards, que Dieu nous a libérés de cela, et que nous ne pouvons pas faire autrement que de pardonner si quelqu'un a un tort envers nous, nous ne pouvons pas exiger la forme qui nous convient. Mais, certes, si la personne reste entièrement butée, murée, hostile, là, je ne pense pas que l'événement du pardon peut avoir lieu. Nous pouvons prier pour cette personne, mais il y a chez nous le désir de pardonner, suscité par la grâce de Dieu, Mais l'événement du pardon aura lieu quand elle se tournera vers nous. Et elle pourra le faire de façon maladroite et il faudra discerner qu'elle opère ce virage, mais il faudra quand même que ce soit opéré, me semble-t-il. Monsieur Weyenberg, et puis...
Oui.
La question porte sur la justice, en particulier donc en rapport avec la quatrième béatitude. Est-ce qu'il ne suffit pas de dire que c'est la justice de Dieu qui seule apporte la solution à tous les problèmes d'injustice dans le monde et dans notre propre vie? Oui, en un sens. Mais il me semble qu'il faut bien distinguer les deux dons de la justice de Dieu qui nous sont faits à nous. Il y a la justice qui nous est donnée comme un cadeau entier, qui nous revêt, qui est mise à notre compte, de la justification, et puis il y a la justice que nous pratiquons par l'effet de la grâce de Dieu. Mais il faut bien garder distinctement cette dualité. Voilà, et puis je crois que ce sera la dernière question. Oui.